Vous écoutez CILS FM 107,9, la radio communautaire de Victoria.
Aventure, amour, meurtre, espionnage, drame, personnage historique ou inventé. Les livres sont une source de plaisir, de détente et d'émotion. La chronique « Les livres que j'ai aimés » fera partie de notre nouvelle émission « Parole d'aînés » qui prendra l'antenne le 13 août dès 9h le matin. Guy Pruvost partagera alors avec les auditeurs de CILS-FM sa passion de la lecture.
Bienvenue dans votre rendez-vous quotidien en information, le débrief. On a actuellement 20 degrés au centre-ville à 16h. On écoute tout de suite les bulletins de notre collaborateur Denis Lépine et on se retrouve dans quelques minutes pour la météo détaillée. Merci de s'intoniser le 107,9 CILS. La production du débrief est rendue possible grâce au soutien du Fonds canadien de la radio communautaire.
Info Éducom national international, ici Denis Lépine. Bonjour, madame, messieurs. C'est du 7 au 9 mars 2017 que le Canada accueillera plus de 1000 participants de partout dans l'hémisphère occidental à Montréal, dans le cadre de la 5e édition de la plateforme régionale pour la réduction des risques de catastrophes. D'après le gouvernement Trudeau, bien la réunion donnera au Canada l'occasion d'apprendre des autres pays. Elle permettra également l'échange des solutions pour éclairer l'élaboration de politiques et de programmes pour l'approche du Canada à l'égard de la réduction du risque de catastrophe. Eh bien, de l'argent sera investi pour tenter de connaître les effets sur la santé des feux de forêt en Alberta. Jane Philpott, ministre de la Santé du Canada, a annoncé qu'Ottawa va s'associer à la Croix-Rouge canadienne et au gouvernement de l'Alberta pour investir 3 millions de dollars dans les travaux de recherche. Dans un communiqué, bien l'Institut de recherche en santé du Canada a indiqué que le financement permettra à des chercheurs d'étudier la résilience en lien avec la santé mentale et le bien-être psychosocial, les dépendances, la santé et la sécurité au travail des personnes vivant et travaillant dans la zone incendiée. Le Service national des enquêtes des Forces armées canadiennes a porté deux accusations contre le matelot-chef Daniel Cooper de l'École navale atlantique à Halifax. Selon le ministère de la Défense, les accusations font référence à une agression sexuelle présumée qui aurait eu lieu lors du déploiement de l'équipage du NCSM Athabascan en novembre 2015. La victime présumée est aussi un membre des Forces armées canadiennes. Le lieutenant-colonel Francis Bolduc du Service national des enquêtes des Forces armées canadiennes a dit que l'enquête sera menée de manière exhaustive et impartiale. Le Conseil canadien pour les partenariats publics-privés tient aujourd'hui et demain sa 24e conférence nationale annuelle intitulée « Innover pour l'avenir ». La conférence a lieu au Centre Sheraton de Toronto. Le programme de deux jours doit entre autres aborder les dossiers de l'urbanisation et les cybermenaces. Mark Romoff, PDG du Conseil, a dit que des conférenciers et des dirigeants internationaux mettront l'accent sur les enjeux et les idées qui propulsent, selon lui, le programme mondial des partenariats publics-privés. Ce sont 2,3 millions de dollars que l'organisme Canary injectera dans 5 projets de recherche canadiens. Il s'agira de mettre au point de tout nouveaux logiciels et outils de recherche pour le répertoire de logiciels scientifiques de l'organisme qui dit d'ailleurs les mettre à la disposition des chercheurs canadiens. Kirsty Duncan, ministre des Sciences, a dit que les initiatives comme le programme logiciel de recherche améliorent la capacité du Canada à entreprendre des recherches et à innover en donnant aux gens de science les outils dont ils ont besoin. Aux États-Unis, Donald Trump a poursuivi ses attaques dirigées à l'endroit d'Hillary Clinton. Il a dit que son adversaire a eu tort de déclarer que 50% des gens qui le supportent sont déplorables. De plus, le camp de Donald Trump a refusé de qualifier David Duke du KKK de déplorable, et ce même si des élus du Parti républicain encouragent depuis des semaines l'organisation Trump à agir de la sorte. Santé Canada vient de faire le lancement d'un processus de consultation publique et celui-ci visera à obtenir des commentaires sur la structure future du programme de contribution pour les langues officielles en santé. Le programme a pour but notamment de donner aux communautés francophones en situation minoritaire partout au pays un meilleur accès aux services de santé. L'Agence de la santé publique du Canada y est allée d'une déclaration suite à la réunion des ministres de la santé du G7 au Japon. Selon l'organisme, bien l'événement a permis d'approfondir les discussions sur le renforcement de l'architecture de la santé mondiale en cas d'urgence sanitaire. Le Dr. Gregory Taylor, administrateur en chef de la santé publique, a dit que les membres du G7 ont un important rôle à jouer pour aider à renforcer la capacité à intervenir en cas d'urgence de santé publique. Au sport, au baseball majeur, eh bien, revers des Blue Jays, 6-2 contre les Rays de Tampa Bay. Jumelés à la défaite des Red Sox, eh bien, les Jays demeurent toujours à 2 matchs de la tête. Jays et Rays s'affronteront à nouveau cet après-midi. Hockey, match préparatoire de la Coupe du Monde, victoire hier des États-Unis 3-2 contre la Finlande. Notons que le calendrier préparatoire prend fin aujourd'hui avec 3 rencontres, l'Amérique du Nord contre la République tchèque, l'Europe contre la Suède et le Canada contre la Russie. Et le Canada, eh bien, a subi une autre perte avant même le début de la ronde préliminaire. Cette fois, il s'agit de Tyler Seguin qui doit déclarer forfait en raison d'une blessure. Ryan O'Reilly a été appelé en renfort. Et au tennis, eh bien, le verdict de l'appel de Maria Sharapova concernant sa suspension de 2 ans pour dopage a été retardé pour la 2e fois. Le verdict sera cette fois entendu en octobre.
Vous écoutez CLS FM 107,9. Vous êtes dans Le Débrief, votre rendez-vous info quotidien. On va s'intéresser à la météo avant d'aller au bulletin des Nations Unies, bulletin qui nous parvient tous les jours du siège de l'ONU. En météo, je vous le disais en ouverture d'émission, on a 21 degrés à Victoria, au centre-ville. C'est la même chose du côté de l'aéroport à proximité de Sydney et c'est 16 degrés à proximité du port de Victoria, donc près de l'eau. Autrement dit, on a 16 degrés. Autrement, au centre-ville, c'est 21. Le ciel reste dégagé en soirée. On aura une belle journée presque à l'identique demain, jeudi 15 septembre. Ça va se compliquer un petit peu vendredi 16 septembre. On aura des nuages vendredi avec un maximum de 20. Samedi, Environnement Canada nous prévoit de la pluie avec un maximum de 16. Dimanche, le ciel reste gris, mais la pluie ne semble pas au rendez-vous et très très loin dans le temps, si on pousse jusqu'à lundi 19 septembre, les nuages sont toujours là, ce sera nuageux lundi 19 septembre avec un maximum de 17 degrés. Donc on a 21 actuellement, c'est la même chose demain, c'est sans doute ce qu'il faut retenir avant tout. On va aller maintenant au bulletin de l'ONU, on se retrouve de l'autre côté avec les nouvelles du jour, à tout de suite.
Bonjour à toutes et à tous, Isabelle Dupuis pour ce journal de la radio des Nations Unies. Avec en titre, conférence de presse du secrétaire général sur la 71e session de l'Assemblée générale. Le Conseil de sécurité appelle à appuyer le développement de l'Afghanistan. L'UNICEF s'inquiète du manque de données sur les enfants et il sera aussi question de l'importance de la téléphonie mobile pour les réfugiés. Le secrétaire général de l'ONU a donné ce matin une conférence de presse alors que s'ouvre la 71e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Ban Ki-moon, qui achève cette année un double mandat à la tête du secrétariat de l'organisation, a estimé que le débat général de l'Assemblée et les réunions de haut niveau qui se tiendront à compter de la semaine prochaine à New York interviennent à un moment critique en raison notamment des nombreux conflits dans le monde et de la délicate mise en œuvre des objectifs de développement durable adoptés en 2015. Jérôme Longuet.
D'emblée, Ban Ki-moon a souligné l'importance de résoudre les conflits prolongés et de répondre à la montée des tensions en Afrique, en Asie, en Europe et au Moyen-Orient. Autre priorité, la mise en œuvre des 17 objectifs de développement durable adoptés il y a tout juste un an. Pour le secrétaire général, 3 défis majeurs doivent être relevés. D'abord, la question des réfugiés et des migrants qui constitue une responsabilité partagée des États. Ensuite, le changement climatique et l'entrée en vigueur de l'accord de Paris avant la fin de cette année. La récente ratification par la Chine et les États-Unis représente à cet égard un grand pas en avant. Reste à convaincre 28 autres États. Enfin, les destructions et l'instabilité causées par la guerre en Syrie doivent cesser. Aussi, il est essentiel que les négociations intra-syriennes reprennent et aboutissent. Par ailleurs, Ban Ki-moon a annoncé qu'il se rendra samedi à Montréal à la conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Puis le 26 septembre en Colombie, à Cartagena, pour la signature de l'accord de paix historique entre le gouvernement et les FARC.
Le Conseil de sécurité a adopté ce mercredi une déclaration présidentielle sur l'Afghanistan dans laquelle il demande à la communauté internationale de poursuivre ses actions en faveur du développement pour aider le gouvernement et le peuple afghan, notamment en prévision de la conférence de Bruxelles sur l'Afghanistan prévue le 5 octobre. Les 15 se sont aussi déclarés préoccupés par l'état de la sécurité dans le pays et ont condamné les activités terroristes perpétrées, entre autres, par les talibans. Des préoccupations largement partagées par le nouveau représentant spécial du secrétaire général pour l'Afghanistan. On écoute Tadamichi Yamamoto.
Les talibans n'ont toujours pas explicitement démontré un engagement clair envers un processus de paix, et ce malgré les nombreuses offres d'ouverture du président Ghani et de la communauté internationale. Mon espoir le plus fervent est qu'alors que l'hiver approche et que le rythme du conflit se ralentit, les talibans feront preuve de leur volonté de parler avec le gouvernement afghan. L'accord qui est en train d'être négocié entre le gouvernement et Hezb-e-Islami démontre la sincérité du gouvernement au sujet des négociations. L'expérience nous enseigne que les processus de paix prennent des mois et des années. Des mesures doivent être prises pour établir la confiance entre le gouvernement et les talibans afin de tracer la voie pour la tenue de pourparlers substantiels. Plus tôt le processus sera lancé, moins les Afghans souffriront.
Pour les réfugiés, l'accès à la téléphonie mobile et à l'Internet est aussi important que la nourriture, l'hébergement ou les médicaments. C'est ce qu'indique une nouvelle étude du Haut Commissariat pour les réfugiés publiée ce mercredi. Aussi, le HCR forme des partenariats avec des fournisseurs de services mobiles et Internet pour répondre à ces besoins désormais essentiels. John Chaiman est porte-parole au HCR.
L'étude qu'on a faite nous a dit que pour la plupart de ces réfugiés, une connexion téléphonique ou d'Internet est aussi importante que la nourriture, l'hébergement ou des médicaments. Pourquoi? Parce qu'il est très important pour eux d'avoir accès aux provisions de médicaments ou des possibilités de travail. Et actuellement, dans les pays comme la Grèce, pour la registration des réfugiés pour l'asile, il fallait que le réfugié prenne contact avec le bureau d'enregistrement par Skype et aussi de recevoir le numéro de référence et la date de rendez-vous par SMS. Donc, il est très, très important actuellement pour le réfugié d'avoir accès aux moyens de communiquer, soit par portable ou par Internet.
Athènes a été nommée ce mercredi par l'UNESCO capitale mondiale du livre pour l'année 2018. 18e ville à être honorée depuis Madrid en 2001, la capitale grecque s'engage à promouvoir les livres et la lecture et à mettre en œuvre un programme d'activité pour une période d'un an à partir de la journée mondiale du livre et des droits d'auteur célébrée le 23 avril. Sur les raisons du choix d'Athènes, on écoute Ian Dennison, chef de l'unité des publications et de la gestion des marques à l'UNESCO.
Athènes ont vraiment fait une candidature qui est ressortie de l'eau. C'était pas le plus long, c'était pas le plus détaillé, mais c'était quand même le plus ambitieux et je pense le plus innovatrice. Ce qui nous a frappé le plus, c'est les différents types d'activités. Ça peut être la célébration de la lecture, l'inclusion des touristes, ça peut être l'espèce de recherche pendant la nuit pour les livres cachés. Et même, très drôle, une activité qui s'appelle en anglais « It's all Greek to me ». Mais ce qui nous a vraiment fait décider, je pense que c'est qu'ils ont dressé les questions très importantes aujourd'hui pour les restes. C'était de dresser le programme aux migrants qui se trouvent en Grèce aujourd'hui.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
Près d'un an après l'adoption des objectifs de développement durable, l'UNICEF tire la sonnette d'alarme. Il n'y a pas de données disponibles pour la moitié des indicateurs sur l'enfance. Le fonds appelle les États à investir dans de meilleures données sur les enfants et vient par ailleurs d'installer une machine à remonter le temps au siège de l'ONU à New York pour attirer l'attention du public et des délégations sur l'importance de la question. Pour en savoir plus, Christina Silveiro a joint Tamara Kummer, porte-parole de l'UNICEF.
L'UNICEF aujourd'hui appelle les dirigeants mondiaux à investir davantage en faveur des statistiques et des données sur les enfants. Nous avons récemment fait une analyse qui montre que les statistiques liées aux objectifs de développement durable en rapport avec les enfants sont disponibles seulement pour la moitié des indicateurs. Vraiment, on lance un cri d'alarme par rapport à ça. Les statistiques sont absolument essentielles pour aider les pouvoirs publics à disposer des informations nécessaires pour qu'ils puissent apporter une réponse adaptée aux défis auxquels sont confrontés des millions d'enfants, ou pour évaluer justement les progrès qui sont enregistrés vers la réalisation des objectifs du développement durable. Cette analyse de l'UNICEF montre que les statistiques relatives aux enfants, en particulier sur la pauvreté et la violence, sont souvent très limitées.
Justement, dans quel domaine y a-t-il des lacunes ? Avez-vous des exemples ?
Oui, alors on pourrait parler justement d'exemples spécifiques, notamment en matière, par exemple, d'actes sexuels forcés. On sait qu'environ 120 millions de filles de moins de 20 ans ont subi une relation sexuelle forcée ou d'autres actes sexuels forcés. En revanche, les garçons qui eux aussi courent des risques de ce genre d'abus, mais nous ne disposons que de très peu de données sur la situation des garçons. Un autre exemple, quasiment tous les pays manquent de données spécifiques et comparables sur le nombre d'enfants qui souffrent d'un handicap. Un autre exemple qui relève de la santé maternelle, on sait que chaque jour, 830 mères meurent en raison des complications qui sont liées à leur accouchement. Et nous savons également que la plupart de ces décès pourraient être évités. Mais beaucoup de données manquent concernant la qualité des soins de santé que ces mamans reçoivent pendant leur accouchement. Un dernier exemple, un pays sur deux dans le monde ne dispose pas de données récentes sur les enfants qui vivent en surpoids.
Est-ce qu'il y a justement des régions particulières qui sont concernées ?
Je pense que c'est un problème qui concerne un grand nombre de pays et c'est pour cette raison que nous lançons vraiment un appel pour que tous les pays investissent davantage dans la collecte des données qui sont relatives aux enfants pour justement aider à avoir de meilleures politiques publiques en faveur des enfants et pour mesurer le progrès vers l'atteinte des objectifs de développement durable.
Pour attirer l'attention sur cette problématique, l'UNICEF installe une machine à remonter le temps dans les coulisses de l'Assemblée générale ?
Oui, exactement. Alors nous avons créé une installation que nous avons appelée une machine à remonter le temps, qui est essentiellement une capsule qui revisite les statistiques d'une manière artistique et transforme les données relatives à des souvenirs d'enfance en musique. Et en fait, cette installation est à destination des visiteurs et aux délégués qui participeront à l'Assemblée générale des Nations Unies de cette année pour vraiment pointer l'utilité des statistiques et souligner les lacunes en matière de statistiques sur les enfants. Concrètement, c'est une capsule, c'est un petit isoloir où l'utilisateur est face à un ordinateur qui lui pose un certain nombre de questions sur ses souvenirs d'enfance. Chaque réponse constitue une statistique en fait d'enfance qui est ensuite transformée en musique. Donc chaque utilisateur aura une chanson ou une mélodie spécifique à ses propres souvenirs d'enfance. Cette chanson ou cette mélodie qui est spécifique à chaque usager peut être partagée.
Et c'est avec Tamara Kummer que se referme ce journal de la radio des Nations Unies, une édition à retrouver sur l'Internet. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.
Si vous venez de vous joindre à nous, vous êtes dans le débrief à l'antenne de CILS FM 107,9, votre rendez-vous d'information quotidien en semaine. Il est 16h18 et quelques. Si vous nous écoutez en rediffusion dans la matinée du 15 septembre, merci d'être avec nous. On va maintenant passer aux nouvelles provinciales. Le député Robert Falcon Ouellet, c'est un député fédéral, Robert Falcon Ouellet met en doute la décision du gouvernement fédéral concernant le barrage du site C en Colombie-Britannique. Le député de Winnipeg Centre, Robert Falcon Ouellet, a déclaré qu'il avait des doutes sur la manière dont le gouvernement avait consulté les Premières Nations avant d'autoriser le projet de barrage hydroélectrique site C. Le député autochtone a publiquement remis en question mardi la décision qu'avait prise Pêche et Océan Canada en juillet en autorisant la construction du barrage du site C. Cette déclaration fait suite à une manifestation qui s'est tenue hier mardi devant le Parlement du Canada. un groupe d'activistes et de Premières Nations a traversé le pays au cours des derniers jours en autocar depuis la Colombie-Britannique pour protester sur la colline parlementaire à Ottawa contre le projet du C. Robert Falcon Wallet a déclaré « Je ne suis toujours pas convaincu, après avoir parlé avec plusieurs personnes qui ont voyagé à travers le pays, qu'ils ont été assez consultés et je ne suis même pas sûr que l'on a regardé la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones », a-t-il déclaré. Le projet du barrage du site C prévoit de construire un réservoir de 83 km de long qui inonderait les terres ancestrales des Premières Nations et forcerait le déplacement de 20 familles d'éleveurs installées depuis plusieurs générations. Amnesty International a demandé de faire cesser les travaux sur le site du site C en début de semaine, après la publication d'un rapport intitulé « The Point of No Return », un rapport dans lequel Amnesty International explique les inquiétudes des populations locales et le coût environnemental du projet site C. Si on cite le rapport d'Amnesty International, on trouve notamment ce passage: la loi canadienne et internationale exige un niveau de protection élevé et rigoureux pour assurer que les populations autochtones qui ont déjà assez enduré de décennies de marginalisation, de discrimination, de dépossession et d'appauvrissement ne soient encore victimes de préjudices supplémentaires sur leurs terres et leur territoire. Le permis de construction avait été approuvé par le gouvernement fédéral, donc pour le barrage site C. Les travaux avaient commencé à l'été 2015. Et donc le barrage, s'il est construit, alimentera 450 000 foyers en électricité en Colombie-Britannique. On parle à présent de la crise des surdoses. La Colombie-Britannique, vous le savez, est en urgence sanitaire concernant les surdoses d'opioïdes et de fentanyl principalement. On a le service de police de la région de Vancouver, et plus spécifiquement la police de Delta en Colombie-Britannique, qui va tendre la main aux utilisateurs d'opioïdes. Le service de police tiendra des forums sur le fentanyl dans les écoles afin de faire de la prévention. On apprend ça sur le portail de Radio-Canada aujourd'hui. La police de Delta a déclaré mardi dans un communiqué que des intervenants viendront discuter des dangers entourant la consommation du fentanyl et l'impact potentiel de cet analgésique opioïde sur les utilisateurs occasionnels et leurs familles. L'annonce survient le même jour que l'annonce de la Gendarmerie royale du Canada concernant une vidéo sur les dangers du fentanyl. La GRC a en effet publié une vidéo cette semaine sur les dangers du fentanyl. La GRC a notamment rappelé que le fentanyl est une drogue qui entraîne une forte accoutumance et qu'elle est d'une puissance estimée à 100 fois supérieure à celle de la morphine. Autrement, dans le média local Times Colonist, le journal de Victoria, il y a une nouvelle concernant la GRC et cette crise des surdoses. Justement, on apprend dans cet article du Times Colonist que la GRC, les officiers, les agents de la GRC seront désormais équipés d'un vaporisateur nasal de naloxone. Le naloxone, vous le savez sans doute, est un antidote qui permet de renverser les effets du fentanyl, de cette drogue si mortelle, si dangereuse. Donc les officiers, les agents plutôt de la GRC auront maintenant un kit de vaporisateur nasal de naloxone, l'antidote, sur leur personne en tout temps. C'est une mesure qui est prise à l'échelle de la Colombie-Britannique, je crois, à moins que ce soit dans la région de Vancouver. L'article ne le précise pas. En tout cas, c'est une bonne c'est une bonne initiative puisque les agents vont pouvoir se protéger contre les vapeurs ou contre par inadvertance une consommation du produit, et ils pourront également protéger les usagers, les toxicomanes qui font usage de fentanyl. Autrement, on apprend dans les médias aujourd'hui, on en sait plus, on en sait davantage sur l'horaire du prince William et de son épouse Kate, ainsi que de leurs enfants, lors de leur visite au Canada. Donc l'horaire détaillé est maintenant rendu public. Alors, ils seront à Victoria, peut-être le savez-vous, les 24 et 29 septembre, oui, donc dans quelques jours. Alors, si vous voulez éviter les bouchons de circulation associés à cette visite, si vous voulez éviter la cohue des admirateurs qui se presseront sans doute en certains lieux pour les voir passer, donc vous soyez avisés, c'est le 24 et le 29. Et si au contraire vous souhaitez les acclamer et leur envoyer la main, eh bien c'est à votre discrétion, à vous le choix, les 24 et 29 septembre. Donc ça commence le 24, cette visite royale, le prince William, Kate et les princes Charlotte et George, leurs enfants, arriveront à bord d'un avion de l'armée de l'air canadienne. Ils vont atterrir à Victoria dans l'après-midi du 24. En soirée du 24, une réception en leur honneur est donnée à la Government House, qui est le lieu, l'habitation du lieutenant-gouverneur. Vous le savez, c'est dans le coin de Fairfield, le quartier Fairfield, en allant vers Oak Bay. Et par la suite, donc, la famille va faire une tournée de l'ouest et du nord-ouest, donc ailleurs en Colombie-Britannique, à Vancouver notamment. Donc, ça va les amener un petit peu partout et jusqu'au Yukon, dans l'Okanagan. Et le 29 septembre, ils seront de retour à Victoria. Donc, le couple, en compagnie de ses enfants, participera à une fête d'enfants donnée à la Government House. L'occasion pour certains membres du public de rencontrer les membres de la famille royale, et autrement, il y a d'autres activités qui sont prévues. Le 30 septembre, le couple sera toujours en Colombie-Britannique, mais ils se déplaceront du côté de Haida Gwaii, et la visite prendra fin le 1er octobre. Ils seront ce jour-là, je crois, toujours en Colombie-Britannique, sur le littoral britanno-colombien, non loin d'Haida Gwaii. Donc voilà, pour Victoria, c'est les 24 et 29 septembre. On parle à présent du Parti vert du Canada et de son cousin, le Parti vert de Colombie-Britannique. Il y a eu un échange de propos vifs, si vous voulez. Il y a des désaccords entre les deux formations qui ont filtré. Le Parti vert du Canada, vous le savez, a adopté cet été une motion d'appui au mouvement BDS qui milite pour les droits des Palestiniens. Donc cette motion a fait grand bruit, elle a divisé le Parti vert du Canada. La chef du Parti vert du Canada, Elizabeth May, a déclaré qu'elle était contre cette motion, donc contre l'appui qui avait été donné au mouvement BDS, boycott, désinvestissement et sanctions à l'encontre d'Israël. Et voilà que les secousses, si vous voulez, subséquentes, continuent de se faire sentir. Le Parti vert de Colombie-Britannique a signifié par la voix de son leader, Andrew Weaver, qu'il était justement opposé à cette décision qu'avait prise le Parti fédéral. Les deux formations politiques se sont opposées dans le forum d'un média de l'île de Vancouver, le TAI, et Andrew Weaver, donc qui est le chef provincial du Parti vert provincial, avait signifié son opposition à cette fameuse motion, et il a été critiqué à son tour par des membres du Parti vert du Canada, et Elizabeth May, qui est la chef du Parti vert du Canada, a jugé que les membres de son cabinet fantôme qui avaient critiqué Andrew Weaver, avait dépassé les limites prescrites par leur rôle au sein du cabinet fantôme, et donc elle les a congédiés. Donc il y a des vagues au sein du Parti vert du Canada et du Parti vert de la Colombie-Britannique. Cette prise de position en faveur du mouvement BDS continue de susciter la discussion. On en aura sûrement d'autres échos. On sait que le Parti vert doit se réunir en décembre pour remettre ce sujet sur la table et en discuter. Donc, c'est un sujet dont on va reparler assurément. En attendant, on s'en va en musique. On écoute une pièce récente de Sarah Dufour. C'est tiré de l'album Tu dors encore. Ça s'intitule Tu dors encore. C'est la pièce éponyme de l'album. On se retrouve de l'autre côté avec les nouvelles du jour. À tout de suite.
Pelouse est longue, faut que je l'attende, la vaisselle est sale, faut que je la lave, je pense qu'on est dû pour faire une brassée. Toi t'es encore couché, faut pas que je te réveille, j'arrive de travailler, je fais souper, faut pas que j'oublie de mettre les poubelles au chemin. Et puis toi, tu dors, puis toi, je me donne à ma job, 6 jours semaine. Chaque fin de mois, j'ai plus une scène. Tu me parles de mettre des gros robots sur ton pick-up. Ça doit faire 3 mois que t'es sur le chômage. Tu fais rien que chialer, que t'as pas d'ouvrage. Puis moi, je cours après ma queue comme un veau. Et puis toi, tu dors. Pis toi, tu dors encore. Y'a rien que des factures dans boîte à mal. L'aiguille à gorge du char dépasse jamais le corps. Pis le moffleur est parsé. La brossée est finie, faut que je mette à sécher. J'ouvre les fenêtres, j'ai besoin d'air. J'passe le balai sur nos vieilles histoires. Pelouse qui pousse, puis le soleil qui se lève. À un moment donné, falloir que tu fasses pareil. En attendant, je sac mon camp sur le pouce. Et puis toi, tu dors. Puis toi, tu dors encore. Et puis toi, tu dors.
Sarah Dufour dans Le Débrief, 16h32, merci d'être à l'écoute. Si vous nous écoutez en reprise dans la matinée du 15 septembre, bienvenue dans l'émission. On va passer aux nouvelles du jour à présent. Le silence des oiseaux, 1,5 milliard d'oiseaux disparus d'Amérique du Nord. C'est un titre de la presse canadienne aujourd'hui. Les Nord-Américains ont perdu en quelques décennies les champs d'1,5 milliard d'oiseaux. Selon le plus récent recensement, les données recueillies par les gouvernements, les universités et des agences environnementales révèlent aussi que 86 espèces d'oiseaux, dont de célèbres chanteurs comme la paruline du Canada ou le gros bec errant, jadis très courant, sont aujourd'hui menacées par une population déclinante, la destruction de leur habitat naturel et les changements climatiques. Ce nouveau rapport constitue la plus vaste enquête jamais menée sur les populations d'oiseaux en Amérique du Nord et partant sur la santé des espèces. Le constat est pessimiste. reste. S'il y a encore beaucoup d'oiseaux dans le ciel, ils sont beaucoup moins nombreux qu'avant. La population de Harfang des Neiges, emblème aviaire du Québec, a par exemple baissé de 64% depuis 1970 en Amérique du Nord. La population de gros becs errants a chuté de 92%, celle de la paruline du Canada de 63%, et cette tendance ne fait que s'accentuer. Sur 86 espèces, 22 ont déjà perdu au moins la moitié de leur population depuis 1970, et si la tendance se maintient, elles pourraient perdre encore 50% de leurs individus d'ici 40 ans. Pour au moins 6 espèces, cette demi-vie ne serait plus que de 20 ans tout au plus. Les coupables sont connus. L'expansion de l'agriculture qui perturbe l'habitat des oiseaux des prairies, l'utilisation de pesticides, la déforestation et même les chats domestiques qui tueraient, eux, plus de 2 milliards d'oiseaux chaque année en Amérique du Nord. Donc la situation des oiseaux est assez critique. On en a quelques nouvelles périodiquement. Ça fait un petit moment que cette nouvelle revient dans l'actualité. La presse canadienne a chiffré aujourd'hui les pertes d'oiseaux. Donc c'est intitulé « Le silence des oiseaux ». 1,5 milliard d'oiseaux disparus en Amérique du Nord. Je vous parle à présent d'une fusion, d'une acquisition géante entre deux titans de l'industrie agroalimentaire. On parle de Bayer et Monsanto. Le chimiste Bayer a réussi mercredi, au terme de plusieurs renchérissements, à acheter le fabricant controversé de pesticides et semences OGM, Monsanto, dans ce qui constitue l'acquisition la plus chère jamais payée par un groupe allemand. Bayer et Monsanto ont signé mercredi un accord de fusion ferme au prix de $128 par action en numéraire, a annoncé Bayer dans un communiqué. Cela donne une valeur de 66 milliards de dollars au fabricant américain de l'herbicide Roundup, dont les effets sur la santé humaine sont controversés. Donc on parle bien sûr de Monsanto, une valeur de 66 milliards. Bayer est ainsi parvenu à éviter que les choses ne deviennent hostiles entre lui et l'objet de sa convoitise. Mais Monsanto, roi des semences OGM de maïs, blé et autres soya, ne s'est pas laissé convaincre gratuitement, puisque la toute première offre formulée en mai dernier, rappelez-vous, on en avait parlé dans le débrief, était de $122 par action. Donc celle d'aujourd'hui était de $128 par action, soit un montant total conséquent de 55 milliards. Donc on est passé de 55 milliards à 66 milliards. Alors, le prix de Monsanto s'est fortement apprécié au cours de l'été. Les différents relèvements de prix proposés avaient été déclinés les uns après les autres par Monsanto, qui s'était dit néanmoins ouvert aux discussions, tout en faisant savoir qu'un autre chimiste pourrait se mettre sur les rangs pour l'acquérir. Un chevalier blanc qui ne s'est jamais présenté finalement. L'autre grand nom de la chimie allemande, BASF, le BASF, a refusé de se jeter dans l'arène de cette acquisition, tout en regardant avec attention les éventuelles cessions d'activité que les autorités de la concurrence pourraient éventuellement exigé. Analyste chez DZ Bank, Peter Spengler n'aime pas cette transaction entre Bayer et Monsanto. Bayer paie vraiment trop cher. En conséquence, il va vraiment falloir qu'il en tire le meilleur. Donc Monsanto, au prix de 66 milliards de dollars, ce serait trop cher. C'est rapporté aujourd'hui par le journal Les Affaires, lesaffaires.com. C'est un média économique qui est au Québec, basé au Québec. Donc cette transaction est partout sur la toile. Vous trouverez cet article donc sur le portail lesaffaires.com. Je vous parle également d'un papier paru dans le journal Courrier International. Courrier International qui exerce, si vous voulez, une veille de l'actualité internationale et qui vous rapporte le meilleur de l'actualité. C'est un peu un média qui fonctionne en mode revue de presse. ils ont aperçu un papier paru dans le New York Times cette semaine. Je vous en cite quelques passages. Ça concerne les manipulations criminelles de l'industrie du sucre. Ça rappelle les manipulations qu'avait faites l'industrie du tabac. Vous allez voir un article paru lundi 12 septembre dans une revue scientifique américaine montre que dans les années 60, l'industrie du sucre a sciemment menti sur le risque cardiovasculaire, avec des conséquences dramatiques jusqu'à aujourd'hui. Le scandale est comparable à celui des lobbies des grands cigarettiers coupables d'avoir corrompu des scientifiques pour occulter les risques sanitaires du tabac. Dans les années 60, l'industrie sucrière américaine a payé des scientifiques pour que ceux-ci minimisent le lien entre la consommation du sucre et les maladies cardiovasculaires et pour qu'ils incriminent, au lieu de cela, les acides gras aminés. Tel est résumé par le New York Times l'analyse approfondie de documents historiques publiés lundi dernier dans la revue scientifique JAMA International Medicine. Ces documents historiques, découverts par un chercheur de l'Université de Californie à San Francisco, montrent qu'un groupe commercial appelé Sugar Research Foundation, aujourd'hui connu sous le nom Sugar Association, a versé à 3 scientifiques de l'Université Harvard l'équivalent d'environ 50 000 $ d'aujourd'hui pour qu'ils publient en 1967 une synthèse de toutes les recherches sur le sucre, les graisses et les maladies cardiaques, détaille le New York Times dans un article qui est le plus lu actuellement sur le site New York Times, nytimes.com. Donc, à l'époque, la synthèse en question qui avait été publiée par ces chercheurs de Harvard était complètement biaisée. Elle a été publiée dans le prestigieux journal, prestigieux périodique New England Journal of Medicine, qui est vraiment encore une référence aujourd'hui. Donc c'est pas reluisant. Ça risque de d'éclabousser justement cette publication, même si ça fait plusieurs décennies. C'est quand même très très gênant. Ces révélations sont importantes parce que les débats sur les risques liés à la consommation de sucre et de graisses saturées sont toujours d'actualité aujourd'hui, a estimé Stanton Glantz, qui est professeur de médecine à San Francisco, donc à l'Université de Californie à San Francisco, et il est co-auteur de cet article paru dans le JAMA Internal Medicine. Donc voilà qui bouscule les idées reçues sur l'industrie du sucre, à consulter donc sur courrierinternational.com aujourd'hui. On va aller en musique, on fait une petite pause avec une excellente pièce du groupe Les Hey Babies, qui est un groupe néo-brunswickois, une formation féminine qui est sur le point de sortir un nouvel album. On a déjà un single de cet album qu'on vous a fait passer cette semaine. Je pense qu'on va le faire passer abondamment dans les émissions au cours des prochaines semaines. Ça s'intitule donc cette pièce Motel 1755. C'est signé les Hey Babies et on se retrouve de l'autre côté pour la revue de presse.
Viens mon motel, j'ai la pizza et des bagels. Tu peux coucher sur mon sofa, tu peux sleeper in Europa. Viens mon motel, t'as pas tes scrupules. Viens mon motel, j'ai la pizza et des bagels. Tu peux coucher sur mon sofa, tu peux sleeper in ou dorme. Viens mon motel, t'as pas d'expliquer. Le monde s'appelle bien, surtout quand ça va pas bien.
Hey babies, dans le débrief, il est 16h44, merci d'être à l'écoute. On va à présent se tourner vers la revue de presse des éditos, comme on le fait toujours en fin d'émission. J'ai remarqué pour vous un texte sur le sida, sur le portail de Ricochet. Ricochet.info. Ricochet, c'est un média indépendant canadien, francophone et anglophone. Donc, ce texte a paru ces jours-ci sur le versant francophone du portail Ricochet.info. Ça concerne la lutte au sida. Ça s'intitule « En finir pour de bon avec le sida ». Point d'interrogation, et c'est signé par Pierre-Marie David. Il est chargé de cours de la faculté de pharmacie à l'Université de Montréal et co-signé aussi par Gabriel Girard, qui est chercheur post-doctorant à la même université pour un institut de recherche. Donc, je vous lis quelques passages de ce texte sur la lutte au sida. Le Canada accueille à Montréal la 5e conférence de reconstitution du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. On ne peut que s'en féliciter tant l'image du Canada a été écornée, marquée et déformée par des positions équivoques du gouvernement conservateur de Stephen Harper. On se souviendra notamment de l'attitude sans précédent du Premier ministre du Canada qui refusait il y a tout juste 3 ans de s'adresser à l'Assemblée générale des Nations unies et marquait ainsi son mépris pour le débat démocratique international. S'il faut se féliciter de la tenue de cette conférence à Montréal visant à réunir les fonds nécessaires à la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, il faut cependant maintenir une vigilance critique vis-à-vis des justifications et des arguments qui sous-tendent la mobilisation sociale et financière des grands de ce monde. Car le slogan « En finir pour de bon » est porteur d'une ambiguïté qui mérite d'être interrogée. On va le voir, l'article porte surtout sur le sida. Alors, je saute quelques paragraphes. En 2016, l'ONG Médecins sans frontières a publié un rapport intitulé « Le prix de l'oubli » qui met l'accent sur les millions de personnes qui restent à la marge de la lutte mondiale contre le VIH-SIDA dans des pays tels que la République centrafricaine et la République démocratique du Congo. Il apparaît que le sida ne disparaîtra pas tant que des mesures radicales ne seront pas prises pour accroître l'accès au traitement antirétroviral, et cela avant que les gens ne deviennent très malades. Dans ces deux pays, en conflit armé depuis les années 1990, l'épidémie de VIH-SIDA est encastrée dans des inégalités socio-économiques inacceptables. Autant d'indices qui nous rappellent que la réponse aux épidémies est tout autant politique, locale et internationale, que technique et financière. À l'heure des slogans mobilisateurs comme « En finir pour de bon », ces enjeux sociopolitiques sont trop souvent marginalisés ou exclus de la réflexion collective. Dans ces conditions, l'espérance d'un monde sans sida, autre slogan mobilisateur, risque malheureusement de rester lettre morte pour des millions d'individus. Il faut bien se garder de l'exclure du débat public, cette part de la réalité. Il faut bien se garder d'exclure du débat public cette part de réalité des épidémies mondiales, écrivent les deux co-auteurs de ce papier, Pierre-Marie David et Gabriel Girard. Je continue un petit peu plus loin. L'accès aux traitements antirétroviraux est un enjeu de premier ordre, notamment au sud, mais même lorsque le traitement est disponible, les patients et les acteurs du soin sont confrontés à un problème majeur, celui des ruptures de stock. Cette réalité rarement évoquée affecte particulièrement le continent africain. La conséquence de ces pénuries est le développement possible de résistances biologiques au traitement au niveau populationnel. Au niveau individuel, c'est la double peine, vivre dans l'incertitude pour plusieurs jours ou semaines et savoir que cette absence de traitement est préjudiciable à la santé et au bien-être. Pour les malades, ces ruptures de stock matérialisent l'oubli d'une promesse faite par le traitement. Le slogan du traitement pour tous, lors d'une précédente conférence canadienne en 1996 à Vancouver, a beaucoup fait avancer les choses pour le traitement, mais son universalité apparaît encore comme un horizon très lointain. Pourquoi faut-il se mobiliser, demandent les deux co-auteurs de ce papier. S'il faut se mobiliser socialement et financièrement aujourd'hui, ce n'est pas seulement parce que le VIH-SIDA peut disparaître un jour, mais bien parce qu'il est là, qu'il sera là encore pour longtemps et que son traitement implique plus que l'achat ponctuel de caisses de médicaments, comme le montre l'expérience des autres maladies auxquelles s'adresse le fonds. Tuberculose et paludisme, en l'occurrence, la prise en charge des épidémies implique de soutenir les systèmes de santé fragilisés par les crises et les conflits, en impliquant bien sûr les structures biomédicales, mais aussi les communautés locales qui demeurent les principales concernées lorsque les slogans seront passés. Voilà, c'est signé Pierre-Marie David et Gabriel Girard, c'est sur le portail Ricochet. Tous deux sont à l'Université de Montréal, ce sont des chercheurs, notamment à la faculté de pharmacie. Autrement, je vous parle d'un texte assez étonnant, puisqu'il nous arrive du Québec et qu'il fait état d'un déni de services pour les francophones. Alors, on n'a pas l'habitude d'entendre parler de déni en matière de droit linguistique au Québec, mais c'est une réalité qui se produit parfois. Et ça nous permet de voir que, effectivement, le combat du français, c'est partout au Canada, d'un océan à l'autre. Alors, le chroniqueur Yves Boisvert, dans le journal La Presse, signe une chronique intitulée « Une juge incorrigible ». Vous allez comprendre pourquoi cette juge est qualifiée d'incorrigible. Je vous lis quelques passages de cette chronique signée Yves Boisvert. C'était une affaire simple, une dispute regrettable entre voisins, comme les palais de justice en sont pleins. Un propriétaire poursuivait ses voisins pour avoir causé des dommages à sa propriété pendant qu'il démolissait une maison pour la remplacer par un duplex. Banal, quoi. Il a fallu attendre 4 ans avant la tenue du procès, qui a duré 8 trop longues journées, mais à tout le moins, le 29 mai 2015, quand la juge Karen Keir-Jodoin est repartie avec ses papiers pour délibérer, l'affaire était entendue et trouverait bientôt une conclusion. Normalement, une cause semblable est réglée en quelques semaines de délibéré, tout au plus quelques mois. Le code de procédure civile fixe la limite à 6 mois, mais franchement, pour une affaire aussi banale, ça n'est pas nécessaire. Donc je poursuis cet article, cette chronique, dans cette chronique d'Yves Boisvert. L'été passa, puis l'automne, l'hiver ensuite, et la décision de la Cour supérieure arriva finalement après 14 mois de délibération à la fin du mois de juillet. Non seulement la juge Keir-Jodoin avait-elle dépassé de 2 fois et 1/3 la limite légale, mais le jugement était rédigé entièrement en anglais. Le procès s'était pourtant déroulé en français. Le demandeur en page frontispice s'appelle même Jean-Claude Hébert, mais plus loin, dans le premier paragraphe du jugement, il s'appelle John-Claude Hébert. Alors, on voit, bon, qu'il y a effectivement un déni. Les droits du justiciable ont été brimés. C'est assez évident. Le chroniqueur poursuit. Ce n'est pas le fond du litige qui m'intéresse ici, mais bien ceci, la langue du jugement et le retard à rendre le dit jugement. Il se trouve en effet que la juge Keir-Jodoin est la même qui avait soulevé la colère d'un avocat l'an dernier en rendant un jugement en anglais dans une cause entendue uniquement en français. Et encore une fois, dans un délai très long, avec beaucoup de retard. La juge Keir Jodoin est en effet bien connue à la Cour supérieure pour avoir les pires délais, ce qu'a confirmé hier au téléphone le juge en chef de la Cour supérieure, Jacques Fournier. Donc Yves Boisvert poursuit dans son article, l'avocat d'une des parties, donc de cette affaire qui est citée, s'était ému là, du délai et de la langue employée par la juge. Il a été pénalisé par son conseil de discipline. Donc, je passe sur les détails. Je vais aller à la conclusion du texte de Yves Boisvert. Depuis longtemps déjà, les tribunaux ont décidé que le juge a le droit d'utiliser la langue de son choix. Dans l'immense majorité des cas, le juge est capable d'entendre une affaire dans une langue et rédige le jugement dans la langue des parties. Il est pratique courante même d'écrire dans la langue de la partie qui perd la cause. Il y a quand même une minorité réfractaire ou trop incompétente qui rédige dans la langue de son choix. Ceux-là, comme la juge Keir Jodoin, demandent aux parties s'ils ont objection à recevoir le jugement en anglais ou en français. Mais de peur d'indisposer le juge, rares sont ceux qui vont dire « oui, ça me dérange de recevoir le jugement dans une langue qui n'est pas la mienne ». Alors, voilà, c'est bien souligné de la part de Yves Boisvert. Il continue « d'où ce genre de situation absurde où le justiciable doit demander une traduction et cette traduction prend un délai supplémentaire ». Pourtant, conclut-il, au moment où les tribunaux se montrent de plus en plus stricts avec la poursuite, avec les avocats, avec tout un chacun pour limiter justement les délais, comment accepter qu'un juge soit en retard de manière chronique ou même deux fois? Un juge qui n'est pas capable de rendre la justice dans la langue des parties et qui rend ses jugements en retard ne remplit tout simplement pas les hautes responsabilités qui lui ont été confiées. Voilà, donc il y a deux éléments dans ce texte, donc le retard du jugement. Les procès prennent beaucoup de temps et ça c'est une réalité pan-canadienne qui est déplorée partout dans toutes les provinces. On en avait parlé sur la scène fédérale dans le débrief il y a quelque temps. Et l'autre élément de ce texte, évidemment, c'est la langue. Un justiciable unilingue français francophone qui reçoit un jugement en anglais au Québec en 2016, c'est assez étonnant. Et voilà, ça revient un petit peu à ce que je mentionnais au début de cette intervention. Les droits des francophones, c'est partout au Canada. Ça n'est jamais terminé. Il faut toujours s'assurer qu'ils sont respectés. Voilà, on va terminer là-dessus. On va écouter une pièce qui s'appelle « Le cœur qui bat ». C'est d'une formation appelée « Les Païens ». Et on se retrouve pour le mot de la fin dans quelques instants.
La guerre n'est pas finie.
Truqué.
Alexis Gagnon au micro. Merci de m'avoir accompagné dans cette heure d'info à l'antenne de CILS FM 107,9. Le débrief, votre rendez-vous en info quotidien, va vous revenir demain à la même heure, toujours 16h. Si vous nous avez écouté en rediffusion dans la matinée du 15 septembre, merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une excellente soirée à tous les auditeurs de CILS. À très bientôt.